Tous les dimanches, l'essentiel du sport local et régional. Résultats, analyses, commentaires. Le Café des Sports. Café des Sports.
17h, le Café des Sports. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un grand bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission du Café des Sports, première de la saison 2020-2021. Voilà, ça y est, on est reparti, hein. On va faire comme si tout était normal, malgré la situation un petit peu compliquée, on va dire, dans le domaine sportif, sanitaire, bien entendu, dû à ce saloperie de virus, comme on dit. Donc voilà, personnellement, ça me fait très plaisir de vous retrouver déjà, cher ami auditeur, hein, parce que ça va faire pas loin de 6 mois maintenant, hein, depuis la mi-mars. Donc ravi de vous retrouver, voilà. Bien entendu, l'équipe n'a pas changé pour cette saison. Avec moi, qui coanime l'émission avec moi, il y aura donc Ethan. Salut Ethan.
Salut Tex et bonjour à tous les auditeurs et très ravi de vous retrouver.
Ouais, pour reparler de sport. Ravi de retrouver également Ethan. Et bien entendu, aux commandes, Alexis. Salut Alexis.
Salut Tex, ça me fait super plaisir de vous retrouver tous les deux et on va passer encore une super heure ensemble.
Ouais, bien entendu, en espérant cette fois la finir, la saison. Je tenais à remercier aussi Ethan, hein, car moi j'ai vu un petit pépin physique durant le mois de février et puis courant début mars qui m'avait remplacé. Donc je tenais à te remercier, tu t'en es très très bien sorti, Ethan. Voilà. Ça c'est fait pour les retrouvailles, en vous rappelant que bien entendu cette émission est à retrouver, donc n'hésitez pas à nous donner tous vos résultats bien entendu sur le Facebook du Café des Sports RJFM bien entendu, et vous pouvez aussi nous retrouver je crois sur Instagram et sur Facebook si je ne dis pas bêtise, et également sur Twitter. Voilà, d'abord un petit message, une petite pensée parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire d'abord, hein. C'était pour Christelle qui nous avait quitté fin mai. Christelle qui animait le 9h-12h, hein, toutes les matinales depuis de longues années sur RJFM. Voilà, on peut lui rendre un petit hommage quand même depuis tant d'années qu'elle nous accompagnait, qu'elle vous accompagnait au sein de la radio locale du 92.3. Et j'ai une pensée aussi toute particulière pour Hélène, voilà, qui est décédée au mois de juillet. Elle était dirigeante au sein du club du GHC, du groupement Auchère. Voilà, donc j'ai une pensée aussi pour Hélène, Olivier et Evan bien sûr qui était avec elle durant ces douloureux moments. Et bien entendu une félicitation à Damien Tardieu, hein, qui a été papa une seconde fois dans la nuit de vendredi à samedi si je dis pas de bêtises. Voilà, un petit Loris qui est né samedi matin, donc voilà, on fait un gros bisou à Damien Tardieu et à la maman Aurélie. Voilà, bienvenue à lui et voilà, on fait une grosse bise pour toute la famille. Voilà, avec donc la naissance du petit Loris. Et ben voilà, on peut commencer tout de suite par le sommaire de cette première.
Aujourd'hui, dans le Café des Sports.
Allez, le sommaire, nous aurons un invité exceptionnel en ce tout début du Café des Sports, puisqu'il s'agira de Patrick Montel. Patrick Montel, oui, vous avez bien écouté, notre journaliste tant écouté de France Télévisions, Patrick Montel, spécialiste d'athlétisme, qui sera notre invité. C'est le parrain de notre Café des Sports, qui a eu lieu depuis sa toute première émission, je crois, si je dis pas de bêtises, entre octobre et novembre 2003. À l'époque, c'était avec Christophe Philippon et bien entendu Bounty. Donc, ouais, Alexis.
Ouais, j'avais même pas un an, voilà.
Et ben voilà. Donc voilà, c'était Patrick Montel, hein, qui avait eu l'honneur de nous parrainer pour cette première. Donc je crois qu'on attaque, si je dis pas de bêtises, la 17e saison. Donc voilà, ça va faire super plaisir de pouvoir discuter avec lui un petit peu. Ensuite, nous aurons Didier Bro, le président du BSM, pour parler de la reprise du championnat de National 1, qui aura lieu la semaine prochaine du côté de la Halle des Sports. En deuxième partie d'émission, bien entendu, la chronique d'Ethan. Coup de cœur, je crois, pour cette semaine, Ethan.
Ouais, un coup de cœur pour la reprise.
Donc, coup de cœur dans la chronique d'Ethan. Et bien entendu, nous parlerons football avec la reprise de la Nationale 3 pour le Montluçon Football. C'était leur deuxième match, mais c'était le premier à domicile hier pour l'équipe du Montluçon Foot. On sera donc avec Mickaël Bessac pour en parler. Et un petit point Coupe de France. Nous aurons deux invités avec nous en fin d'émission pour pouvoir en parler un petit peu. C'est le premier tour de la Coupe de France, donc nous serons avec Mathieu Marché, défenseur du médiéval, et Kevin Bergeau, entraîneur de la Biachette Désertine, pour en parler. Voilà pour ce sommaire. On va commencer tout de suite par le premier Flash Sport.
Café des sports. L'essentiel des résultats sportifs du week-end.
On va commencer tout de suite par le football, Ethan.
Ouais, on va commencer avec le football et il y a matière à parler. Alors déjà la reprise de cette Nationale 2. Deux matchs dans la semaine pour Le Puy et Moulin-Isère, nos deux clubs locaux et régionaux qui participent et qui sont en National 2. Donc Le Puy d'abord jouait mercredi contre Bergerac à l'extérieur, c'était leur première victoire 3-1, Le Puy, la première victoire de la saison pour Le Puy. Moulin-Isère se déplaçait du côté de l'équipe 2 de Angers, c'était un match nul un partout. Ils ont rejoué hier il me semble. Le Puy a fait match nul à domicile contre Angoulême 1-1 et Moulin-Isère a fait match nul également contre Nantes 1-1. Le Puy se classe 10e de cette Nationale 2 et Moulin-Isère est 6e. En Nationale 3, c'est la deuxième journée. Le Moluçon Foot s'impose sa première victoire de la saison. Il s'impose à domicile contre l'équipe 2 du Clermont Foot 2-0. Ils avaient fait match nul pour leur premier match du côté de Moulin. Donc c'est un très bon début de saison pour les joueurs de Mickaël Bessac. On en reparlera avec lui plus tard dans l'émission. L'occasion pour nous de vous donner les autres résultats de cette Nationale 3, cette grande Nationale 3, puisqu'il y a des équipes très intéressantes dedans, notamment l'équipe de Thonon-Evian, donc l'Evian-Thonon-Gaillard, pour ceux qui se souviennent. L'équipe qui a joué en Ligue 1 et qui a déjà fait une finale de Coupe de France il y a quelques années, on se rappelle, contre Bordeaux.
Evian-Thonon, ouais. Qui avait été finaliste de la Coupe.
Ouais. Donc vous ne rêvez pas, ils sont dans la poule du Moluçon Foot. Ils démarrent pas leur saison de la meilleure des façons. Encore un match nul contre un Sud Foot, c'était à domicile 1-1. De son côté, Limonest, on se rappelle, qui allait très loin en Coupe de France la saison dernière, s'est imposé 1-0 contre Haut-Lyonnais. Chambéry s'est imposé 3-1 contre l'équipe 2 de Saint-Étienne. Bourgoin s'est imposé 3-0 contre Aurillac.
Bourgoin,
et je vais faire la faute à chaque fois. Tous les ans, Bourgoin, on fait cette erreur. C'est pas la première année qu'on rencontre cette équipe. Bourgoin, il faut que je m'en rappelle. Le Sporting Lyon, l'équipe 2, s'est imposé 3-0 contre l'Académie de Moulins. Et Velay s'est incliné 1-0 contre Vaux-en-Velin. La Coupe de France, c'est le premier tour. Donc hier soir, il y avait déjà des matchs. Uriel, le club de départemental 3, a fait 3-3 contre le Moluçon Médiéval. Alors vous savez, maintenant, il n'y a plus de prolongation. C'est directement au tir au but. Et c'est le Moluçon Médiéval qui s'est imposé 6-5 au tir au but. De son côté, Vallon, un club de D2, jouait Gannat, un club de D1. Encore une fois, match nul 1-1. Ça s'est terminé au tir au but. Obligation maintenant. Une victoire de Vallon au tir au but 5-3. Et Val-de-Sioule s'est imposé contre Commentry, le club de D1, 1-1 à la fin du temps réglementaire et c'est au tir au but, 5-4, c'est la première peut-être surprise. Commentry sorti dès le premier tour face à une équipe sur le papier moins forte qu'elle.
Oui exactement, et Commentry aussi qui s'était fait sortir très tôt de la Coupe de France l'année dernière. Hein. Beaucoup de difficultés pour le FC Commentry depuis 2-3 ans.
Oui, ancien club de R3, il y a 2 ans ils étaient en Régional 3 il me semble, Commentry.
Oui donc, absolument. Ouais.
Donc là, ça démarre mal la saison, donc on espère qu'ils vont quand même faire une bonne saison en départemental. Il y avait des matchs cet après-midi, alors on n'a pas les résultats finaux, on est vers la
4e. Ce sont des résultats qu'on va vous donner qui sont tout près d'être terminés.
Voilà, donc on en a quelques-uns. On a Moluçon Fontbouillant, le club qui avait fait un parcours exceptionnel l'année dernière. Il jouait contre Haute-Rive et il mène 6-0, donc le match est bientôt terminé. On se dirige vers une qualification pour le MFC. De son côté, Moluçon Bien-Assis jouait Béziers-Doyer, c'était le gros match. Le match que je vous avais annoncé lors de l'AS Weekend, Béziers-Doyer, le club de R3, s'en sort plutôt pas mal. Une victoire 7-1. Les résultats et finales ou il reste un peu de temps sur ce match-là?
Je te cherche ça, Ethan.
Pas de souci, donc on vous tient au courant. Et de son côté, Quinssaine menait 4-0 contre Garnat-Saint-Martin. Pareil, le match n'est pas encore terminé. Et un petit dernier résultat en cours, donc c'est pas un résultat final encore une fois. La Montagne Bourbonnaise est menée 2-0 contre Lignerolles-Lavaux, le club de R3. Donc Lignerolles-Lavaux devrait se qualifier. Le match n'est pas encore tout à fait fini. On vous donnera les résultats finaux, tout simplement. On va parler un petit mot du Tour de France, un petit mot de vélo. On va passer au vélo en attendant.
On y va.
La fin, donc aujourd'hui, c'était l'étape 9 entre Pau et la Reims. Pour ceux qui l'ont suivi, c'est la victoire de Tadej Pogacar devant Primoz Roglic et Marc Hirschi. On rappelle qu'il était parti depuis le col de la Ourthère. Donc il est parti au tout début et c'est notamment lui qui avait fait un raid avec Julien Alaphilippe et Adam Yates lors de la deuxième étape. Donc dommage, il est coiffé sur la ligne par Pogacar. Tout simplement, il avait dû un peu trop donner tout au long de la journée. À 11 secondes plus tard, on retrouve le groupe avec Romain Bardet et Guillaume Martin. Du coup, au classement général, le nouveau maillot jaune, c'est Primoz Roglic. Devant Egan Bernal à 21 secondes et Guillaume Martin et Romain Bardet sont 3e et 4e, l'un à 28 secondes et l'autre à 30 secondes du maillot jaune. Donc rien n'est encore joué. Il reste encore 2 semaines de course.
Et demain repos, je crois, pour le Tour de
France. Oui, demain repos, c'est ça. Et puis ensuite, ça repart avec des petites étapes de plaine. Et ensuite,
il y a aussi une nouvelle qui vient nous être envoyée, hein. C'est la première victoire d'un Français en Formule 1, ça y est, depuis Olivier Panis en 1996. Hein. C'est Pierre Gasly qui s'impose lors de ce Grand Prix d'Italie. Voilà, ça c'est en aparté. On enchaîne tout de suite avec du rugby pour vous dire qu'en Pro D2, Nevers, pour la reprise de la Pro D2, s'est incliné à Grenoble 27 à 17. Et que Aurillac s'est incliné du côté de Vannes 30 à 22. Un petit match amical hier pour vous dire que Commentry s'est incliné du côté de la Châtre. La Châtre qui retrouvera l'OCM cette saison. Une défaite 45 à 35 pour les Commentriens. Un petit mot de paratriathlon pour vous dire que Yannick Bourseau est devenu hier champion de France paratriathlon à Quiberon en Bretagne dans la catégorie PTS5. C'est son sixième titre de champion de France et c'est le deuxième dans cette catégorie. Un grand bravo à Yannick. En moto supersport pour vous dire que Jules Cluzel vendredi s'était classé troisième lors de la course 1 de la cinquième étape à Aragon en Espagne. Et par contre aujourd'hui un très mauvaise nouvelle, puisque alors qu'il était leader de cette seconde course, toujours sur le même circuit espagnol, il s'est fait percuter, si je ne dis pas de bêtises, et donc il a chuté, et donc on redoutait une fracture du tibia péroné, et c'est bien une fracture du tibia péroné qui risque, je pense, de lui faire terminer cette fin de saison. Donc voilà, on est tout cœur avec Jules Cluzel, un championnat du monde qui sera sans doute remporté par l'Italien Andrea Locatelli, hein, qui a fait le grand chelem, 9e victoire en 9 courses cette saison.
Oui.
Voilà pour la moto. Un petit mot de basket pour vous dire que le week-end prochain, il y a une journée porte ouverte au Stade Montluçonnet, au gymnase des Guinberts, à l'allée Jean-Jacques Soulier. C'est de 10h à 17h. Et c'est gratuit, bien sûr, pour tout le monde, pour les filles et les garçons. Nés entre 2004 et 2015 inclus, n'hésitez pas à vous lancer dans le basket au sein du Stade Montluçonnet. Un petit mot de triathlon pour vous dire que Alain Vijoux nous a donné un petit mot, pour vous dire qu'une équipe B est engagée suite à l'absence de nos meilleurs athlètes en course sur le championnat du monde de triathlon. Ils ont terminé deuxième de ce Grand Prix. L'équipe prend la 11e place au classement, avec une belle 11e place en individuel de Félix Duchamp, qui réalise le deuxième chrono en course à pied. Et au général, l'équipe est classée 6e sur 16 équipes. Donc un grand bravo pour l'équipe du Montluçon Triathlon. On rappelle qu'il évolue toujours en première division. Un petit mot également d'athlétisme pour vous dire qu'il y avait la reprise avec le Montluçon athlétisme et que Gaël Geffroy ce dimanche décroche le titre sur 1500 mètres. Voilà, c'était lors des championnats départementaux de piste à Vichy. Donc sur le 5000 mètres triplé avec Mathieu Lemoine qui remporte le titre devant Karim Zaher, et premier chrono sur la distance de Julien Pruvost. Deuxième info sur le trail de la Grande Trace dévolu été dans les Hautes-Alpes sur 2 jours en binôme. Le tandem épreuve extrême Sébastien Lallier et Romain Piot se classe 8e samedi au 18 km et sur le 22 km au 1800 mètres ils sont classés 6e au total sur les deux. Voilà, donc un grand bravo également aussi à l'équipe du Montluçon athlétisme. Voilà pour les premiers résultats, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite avec l'autre parrain d'émission.
Tout le sport local se trouve dans le Café des Sports. Tous les résultats du week-end, interviews et analyses. Encore plus d'infos sportives dans le Café des Sports sur RJFM. Alors, ne loupez rien.
C'est le but !
Démarrage difficile dans la région pour vos pièces auto. Choisissez GP Auto. Avec GP Auto, non seulement vous trouverez des pièces neuves pour votre véhicule dans toutes les marques, mais en plus, vous bénéficiez des meilleurs prix. Alors, dites-le autour de vous. Fini les pièces auto trop chères. Foncez chez GP Auto à Montluçon. Un renseignement ? Appelez le 0470 29 41 02. 0470 29 41 02.
Bonne rentrée avec GP Auto. Actuellement, profitez de moins 55% sur les démarreurs et alternateurs de la marque EAI. GP Auto, 44 rue de Pasqui à Montluçon.
C'est nouveau, c'est déjà sur RJFM.
Black Eyed Peas, featuring Nicky Jam et Tiga. Vida Loca.
Don't you know I'm loco, don't care, don't no problemo. Them girls, they love the coco, don't need to call a popo. Judging me's a no-no, if you scroll through my photo. I do not live in slow-mo, I live my life in turbo. Cause it's me, Vida Loca, it's me, Vida Loca. I do what I wanna, I do what I wanna.
FM, la radio Item News.
Bonjour, c'est Philippe Gilbert et vous écoutez le Café des Sports.
Tous les dimanches, le Café des Sports sur RGFM.
De retour dans ce Café des Sports, on est avec notre parrain d'émission.
Salut à tous, Patrick Montel de France 2. Faites comme moi si vous voulez tout savoir du sport régional et local. Écoutez RGFM.
Bonjour Patrick Montel.
Salut.
Ravi de vous avoir. Est-ce que vous vous souveniez de ce jingle que vous nous aviez fait en 2003?
À quelle heure?
Ah bah c'était pour 17h.
Oui, non, je me souviens pas, mais ce dont je me souviens, c'est que c'était très sympa. Donc je me souviens pas exactement de la fabrication, mais je me souviens du parfum. Et c'était un parfum sympa, donc c'est pour ça que j'y reviens.
C'est à l'époque, c'était avec Sébastien Reynaud et Christophe Philippon qui malheureusement nous a quittés. En 2003, voilà, c'est donc il y a presque 17 ans maintenant. On peut plus ne pas vous présenter, Patrick Montel. Vous êtes un journaliste, on ne peut plus remarquer dans le monde audiovisuel français. Durant ces 17 années, Patrick Montel, quel a été votre sentiment par rapport à tout ce sport?
Bon, bah, il y a effectivement une évolution. Alors, il y a une évolution de mon côté, évidemment, puisque j'ai pris 17 ans, mais il y a aussi une évolution sur le modèle sportif français hyper professionnalisé. Et le danger, en fait, c'est que les valeurs auxquelles je suis très sensible, ces valeurs-là ont été un peu mises sous l'été noir par rapport à d'autres valeurs auxquelles je suis moins sensible. Donc, en fait, je suis un peu partagé. C'est vrai que moi, j'ai vieilli aussi, mais je trouve que le modèle sportif aujourd'hui hyper professionnalisé correspond moins à ce que j'attends en réalité du sport, voilà. Donc je suis un peu, alors il n'y a pas d'amertume, hein, mais disons que je suis moins fan, voilà.
D'accord. 2003, c'était l'année des championnats du monde à Paris, ouais. À Saint-Denis. Oui. Ça avait été une grande réussite à l'époque, hein, Patrick.
C'était extraordinaire. D'ailleurs, très honnêtement, lorsque je me penche sur tous les championnats du monde, je les ai tous faits, sauf un. Je pense que Saint-Denis était le plus réussi. Et il n'y a pas de cocorico là-dedans, c'est juste que réellement, il y a eu sur le Stade de France, cette période, une osmose, quelque chose de magique auquel on s'attendait absolument pas. Il y a eu une adhésion totale du public, il y a eu dans le stade une ambiance incroyable, et il y a eu au plan des résultats aussi des choses qui étaient à la fois humaines, et en même temps extrêmement émouvante. Je me rappelle du samedi où coup sur coup, Nice Barber a gagné le titre à la longueur et les filles du relais 4x100 ont gagné le titre aussi. Donc il y a eu un côté absolument magique que j'ai pas retrouvé totalement après. Et encore une fois, c'est pas uniquement un problème de chauvinisme ou de nationalisme étriqué, quoi.
Ethan, tu as une question pour Patrick.
Oui, bonjour Patrick. Vous parliez d'un changement progressif et important lors de ces 17 années depuis que vous êtes dans ce métier. Et donc, du coup, que pensez-vous à l'heure actuelle de l'équipe de France d'athlétisme, par exemple?
Bah, je pense que l'athlétisme, en général, pas seulement l'équipe de France, mais je pense que l'athlète est passé du premier. Alors, on est sur le Tour de France en ce moment, donc disons qu'il est passé du peloton de tête. Il était plutôt en moitié de peloton de tête et maintenant il est plutôt dans le deuxième peloton. Donc je pense que l'athlétisme ne correspond plus totalement à l'ère du temps, parce que c'est une discipline qui est extrêmement exigeante et qui est très ingrate, parce qu'on peut se blesser très vite. Et en plus, il y a le chrono qui est là et on ne peut pas tricher avec le chronomètre. Et puis d'autre part, je pense qu'au niveau diffusion télévisuelle, l'athlète a un peu disparu des chaînes généralistes, en tout cas hors grands événements. Et on sait très bien que pour susciter l'engouement des plus jeunes, bah, il faut qu'il y ait une exposition large. Et aujourd'hui, l'athlète, même RMC qui était le dernier à avoir les droits, à avoir payé les droits, a laissé tomber l'athlétisme. Donc aujourd'hui, l'athlétisme est un peu en recherche de notoriété. Et moi, personnellement, ça m'inquiète un peu, parce que c'est une discipline évidemment que j'adore, quoi.
Quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, l'année dernière à Doha, avec un championnat du monde, moi, c'est mon avis catastrophique. Quand on a vu tous ces athlètes qui s'écroulaient tellement qu'il faisait chaud à plus de 40-45 degrés, c'est sûr que ça donne pas une belle image, une bonne image pour l'athlétisme.
Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire au début, c'est-à-dire que ça fait partie de ce que j'appelle l'évolution de l'hyper-professionnalisation du sport. Et ça ne dit rien que vaille. Bon, on va avoir la Coupe du Monde de foot au Qatar prochainement. Ce sont les mêmes interrogations. Moi, j'ai fait les championnats, j'ai fait les Jeux Olympiques à Sochi, les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi. Il n'y avait personne dans les tribunes. C'était des militaires russes qui remplaçaient les spectateurs. Donc, il y a toute cette évolution-là qui moi, m'inquiète. C'est-à-dire qu'on est en train de sacrifier les valeurs auxquelles on croit sur le sport et qui fait que le sport aujourd'hui c'est quelque chose, c'est un trait d'union qui est indispensable, et on est en train de les sacrifier pour de stricts intérêts économiques et financiers, et moi je me dis que c'est problématique. C'est problématique parce que le sport mérite mieux que ça.
Oui, vous parliez d'une visibilité beaucoup moins importante pour ce sport que vous aimez tant, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que la fin de carrière d'icônes de ce sport comme Usain Bolt ou tant d'autres a joué dans cette progression finalement?
Bah, ça joue forcément, mais lorsqu'un sport comme l'athlétisme, qui est un sport multiple, où on saute, on court et on lance, quand ce sport-là devient monodépendant d'une seule personne, ça prouve qu'il est malade, ça prouve qu'il est gravement malade. Je prends comme exemple le foot. Lorsque Messi va arrêter sa carrière ou lorsque Ronaldo va arrêter sa carrière, le foot continuera de vivre. Il y aura un autre Messi, il y aura un autre Ronaldo, il y aura un autre Zidane. L'athlétisme s'est retrouvé très vite monodépendant du Usain Bolt. Et c'est vrai que l'absence du Usain aujourd'hui se fait cruellement sentir, mais c'est le fait d'être déjà monodépendant prouve que vous êtes en bonne santé.
J'ai envie maintenant de changer de sujet. Vous parliez justement des nouvelles têtes et des nouvelles stars, notamment Armand Duplantis dans le saut à la perche. On rappelle, hein, c'est le nouveau recordman au saut à la perche. Est-ce que vous pensez qu'il peut aller encore plus loin?
Ouais, je pense que Armand Duplantis a une progression qui est encore importante, mais il faut pas qu'il traîne en chemin non plus, parce que Armand Duplantis, ça me fait un peu penser à Renaud Lavillenie, c'est-à-dire ce sont des gabarits qui sont pas phénoménaux, c'est pas Boubka, mais ce sont des gabarits qui sont explosifs. Et on le sait, plus vous vieillissez, moins vous l'êtes. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a une marge de progression qui est phénoménale. En plus, il se pose pas de questions, il rentre dedans, il a pas peur. Et tout est réuni pour qu'il aille très haut. Mais ce sont des périodes éphémères. Et il faut surtout profiter de la fenêtre de tir. Je pense toujours à Jean Galfione, qui a été champion olympique à Atlanta, parce qu'il a profité d'une fenêtre de tir qui était favorable et il a su profiter de l'occasion. Vous pouvez être le meilleur du monde, les fenêtres qui se proposent, eh bien, vous passez à côté. Alors je pense que s'il profite des fenêtres de tir, à ce moment-là, il peut aller effectivement très très haut. En tout cas, il est très régulier à des hauteurs avoisinant 6m10. C'est quand même colossal. Hein.
Patrick, une question qu'on a dû vous poser peut-être un million de fois. Votre meilleur souvenir en tant que journaliste sportif?
Oui, mon meilleur souvenir, c'est demain. Ce qui va se passer demain. Moi, j'ai tellement été privilégié, j'ai tellement vécu de choses extraordinaires alors que je ne les méritais pas fondamentalement, que je me dis que ça peut-être encore durer et que c'est demain en me réveillant qu'il va se passer quelque chose qui sera phénoménal et qui arrêtera et qui effacera tout ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est ce que je dis parce que j'y crois. Maintenant, si je dois vraiment chercher dans le passé, fouiller dans le passé, je vous assure, j'ai tellement, tellement de souvenirs que j'aurais du mal à en sortir parce que je mettrais tous les autres au deuxième plan alors que j'ai vécu des émotions incroyables et que rien qu'en vous parlant, il y en a déjà 10 ou 20 qui s'entrechoquent dans mon cerveau.
C'est vrai que ça devait être des moments fabuleux. On a pu voir aussi sur votre compte Facebook, aussi vous avez diffusé pas mal de vidéos, par exemple durant le confinement aussi, d'un des plus grands souvenirs lorsque vous commentiez tous ces exploits. Et il y avait aussi également un petit message que vous avez laissé hier concernant le Tour de France. J'ai vu que donc vous êtes toujours toujours au courant des dernières situations sportives. Votre sentiment sur notre coureur local, Julien Alaphilippe, vous savez qu'il est tout près de Saint-Amand, près de Montluçon. Il a vécu ici à Montluçon.
Moi, je pense que Julien Alaphilippe, il a compris clairement qu'il pouvait pas aller, qu'il pouvait relâcher le maillot. Il y a eu cette erreur incroyable de son staff qui l'a ravitaillé à moins de 20 bornes de l'arrivée et qui l'a privé deux ou trois jours de plus en jaune. Mais je pense que Julien Alaphilippe a mis le clignotant d'une manière volontaire, de manière à ne plus être dangereux au classement général. Et je pense qu'on va retrouver un Julien Alaphilippe flamboyant dans les Alpes. Moi, je le vois bien gagner. Je le vois bien gagner une des étapes alpestres avec la maestria qui le caractérise. Donc moi, je dis que Julien Alaphilippe, c'est vraiment le coureur dont la France avait besoin. C'est-à-dire, c'est un coureur qui évidemment est très doué, mais qui a surtout du panache. Et je pense qu'aujourd'hui, le panache, c'est une...
Ah, on n'a plus Patrick avec nous.
On a besoin
il est là.
D'être motivé, ouais. Voilà.
Bon, en tout cas, merci pour tout, Patrick Montel. Merci à vous de nous avoir consacré un petit peu de votre temps. On rappelle, hein, vous êtes notre parrain du Café des Sports en 2003. Et voilà, on a voulu vous passer un petit coup de fil pour marquer le coup. Et on vous en remercie grandement.
Merci à vous et puis longue vie au Café des Sports.
Merci à vous, Patrick Montel. Merci pour tout. Bonne journée à vous. Voilà, et ben ça fait plaisir d'avoir pu causer avec quand même quelqu'un d'assez important que Patrick Montel. Donc c'est toujours plaisant d'écouter quelqu'un comme lui. Tout de suite, petite pub et on revient avec Didier Bro, président du BSM. À tout de suite.
Tout le sport local et régional. Direct sur RGFM de 17h à 18h tous les dimanches. Et si vous avez loupé quelque chose, la rediff de 18h à 19h. L'actu de chez vous, c'est aussi sur l'application gratuite RGFM. Vous êtes témoin d'un événement, manifestation, route, météo. Envoyez vos photos ou vidéos sur la page Facebook RGFM. Votre quotidien est notre quotidien. Ne soyez pas seulement témoin de l'information. Partagez-la, likez la page Facebook RGFM.
Salut, c'est Julien Malzieu, vous écoutez le Café des Sports sur RJFM.
Bonjour, c'est Pascal Lometta, vous écoutez le Café des Sports sur RJFM.
Café des Sports, tous les résultats du sport local et régional. En direct sur RJFM, bienvenue dans votre espace de sport.
Allez, de retour dans ce Café des Sports, on va avoir tout de suite Didier Bro, le président du BSM. Le BSM qui va repartir la semaine prochaine pour ce championnat de National 1. Deuxième saison depuis leur remontée en National 2, ce sera un derby d'entrée, Ethan. Ce sera contre Saint-Flour, les Saint-Floren, si je dis pas de bêtises, qui viennent de monter de National 2, hein, qu'elles avaient joué déjà il y a 2 ans. Donc ce sera un bon match. Donc on va avoir tout de suite Didier Bro pour en parler. Bonsoir Didier.
Oui, bonsoir.
Ravi de te retrouver pour ce Café des Sports saison 2020-2021, tout d'abord.
Oui, ravi aussi de vous retrouver.
Ouais, parce que c'est vrai qu'au bout de 6 mois, c'était un petit peu compliqué. En même temps, un bon anniversaire, parce qu'il me semble que c'était hier, si je dis pas de bêtises.
C'est ça. On peut le souhaiter encore.
Voilà, exactement. Didier, merci. On va parler un petit peu donc de cette reprise de la semaine prochaine. Une reprise, on va dire, avec très très attendue quand même, hein, depuis le temps. La semaine prochaine.
Oui, c'est un retour à la compétition. C'est vrai qu'on avait tous hâte à se remettre un petit peu dans le bain. Après, on a un petit peu d'appréhension aussi avec autant de coupures. Voir comment on va pouvoir relancer tout ça. Donc on est impatient et aussi avec un peu d'appréhension.
Par rapport à cette saison, donc premier match à domicile samedi prochain, comment est-ce que ça va se passer, je vais y arriver tout d'abord, pour cette première rencontre à domicile par rapport à la situation sanitaire, Didier?
Donc on a proposé un protocole à la mairie, donc qui a été validé. Donc c'était donc d'avoir le gel à l'entrée, port de masque obligatoire, relevé d'adresse, nom, prénom et numéro de portable et adresse mail. Et comme ça, on peut avoir toutes les places assises. Donc on a une capacité à peu près de 600 places. Donc on peut accueillir jusqu'à 600 spectateurs avec ce protocole.
Tu penses que ça va le faire, qu'il n'y aura pas de soucis, parce que c'est totalement différent hein, entre des gradins de tribune et puis une tribune avec des places assises numérotées, quoi.
Oui, bah nous, ce qu'il y a, bon, c'est vrai que on réfléchissait peut-être à numéroter les places. Aujourd'hui, ça paraît quand même compliqué par rapport à placer tout le monde. Après, je ne sais pas s'il y aura une évolution de ce côté-là. Et l'idée, c'est quand même de relever toutes les personnes présentes. Donc déjà, à partir de là, on aura toujours une trace si ça se passe quelque chose.
Bonjour Didier, la reprise étant attendue, bien sûr, et surtout dans un nouveau format pour cette Nationale 1. Qu'est-ce que vous pensez notamment de ce tout nouveau format ?
À ce tout nouveau format, on l'avait déjà eu pendant 2 ans avec la Nationale 3, avec ce championnat en 2 phases. On sait que c'est beaucoup plus compliqué que sur un championnat qui se déroule normalement à 12 équipes, parce que sur la première phase, il n'y a que 2 équipes qui jouent la poule de montée, entre guillemets, mais en même temps qui assurent son maintien. Et les 4 autres équipes jouent la poule de descente, et avec 3 descentes, c'est-à-dire qu'il y aura une poule de 6, et la moitié de la poule va redescendre en National 2. Donc c'est vrai que cette formule, elle est attrayante, parce que ça met tout de suite d'intensité sur les premiers matchs. Après, au niveau du club et de l'équipe, ça donne moins de temps aussi dans la préparation. Enfin, des fois, on se met un petit peu en route, on peut réajuster. Là, il va falloir être prêt dès le premier match contre Saint-Flour. Et après, on enchaîne tout de suite à l'extérieur contre Annecy. Donc voilà, on a 2 gros matchs à faire, un derby et une équipe Annecy qui est ambitieuse, qui a dû finir 4e l'année dernière. Donc voilà, on attaque plein pot, je dirais, entre guillemets, le championnat.
L'objectif cette année, c'est le même que l'année dernière, c'est le maintien avant tout ?
Oui, oui, de toute façon, nous, l'an dernier, on n'a fait qu'une demi-saison, entre guillemets, en National 1, hein, donc on n'a pas d'ambition autre que le maintien. Moi, ce que je souhaiterais, c'est pour aussi la sérénité de tout le monde, c'est qu'on puisse finir dans les 2 premiers, voire la 3e place, que normalement, il y a des points attribués en fonction de son classement. Donc si on finit 3e, on a un peu plus de chances d'assurer le maintien. Mais oui, oui, c'est le maintien sur la National 1. Après, on a un petit peu plus d'ambition sur la National 3, où on veut quand même essayer de jouer les premiers rôles du championnat qui, lui, cette année, se redéroule sur une poule de 12.
On a pu suivre récemment sur vos réseaux sociaux, notamment, un stage de cohésion avec le groupe. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le groupe vit bien ? Est-ce que le groupe est prêt à redémarrer ensemble, comme ça a été le cas l'année dernière ?
Oui, oui, là, il y a une vraie dynamique. Toutes les nouvelles ont été très, très bien intégrées. On sent qu'il y a la mayonnaise a pris tout de suite. Alors sûrement aussi du fait qu'il y a eu une grosse coupure et que tout le monde avait envie. Mais je pense que dans les profils qu'on a été chercher, aussi bien sportifs que mental, entre guillemets, enfin la mentalité plutôt en dehors du sport. Et en fait, on ne s'est pas trompé pour l'instant parce que la cohésion s'est vraiment faite rapidement et sur des bonnes bases.
Et Didier, tu as maintenu ta confiance à Cassandra Bonnet pour cette saison. Ça, c'était important
oui, oui.
aussi.
Oui, de toute façon, avec Cassandra, ce que j'avais dit à l'époque, en janvier, quand elle avait pris les fonctions à la suite, c'est que moi, j'ai toujours fait mes espoirs sur Cassandra pour le futur sur les équipes seniors. Donc, elle était encore pas prête dans sa tête parce qu'elle voulait rester un peu joueuse. Après, il y a eu cette bascule qui a peut-être été rapide et qui, en fait, prouve sur le travail qu'elle fait. Après, c'est une jeune entraîneur, hein, donc il faut être aussi indulgent. Hein. Mais sur le travail qu'elle fait, on sent qu'elle est tout à fait à la hauteur des compétences qu'il faut.
Eh ben écoute, merci Didier, on verra ça avec attention la semaine prochaine, hein. Donc on rappelle, samedi prochain, premier match de cette reprise de saison de National 1, le BSM jouera contre Saint-Flour. Je pense qu'on aura grandement l'occasion d'en parler cette semaine dans le Good Morning, et également le dimanche prochain dans le Café des Sports. Merci Didier.
Merci, le match est à 20h.
À 20h, match à 20h. Merci pour tout.
Merci, merci.
Merci bien. Voilà Didier Bro, donc président du BSM. Petite pause et on se retrouve tout de suite pour le second flash au sport.
Salut, c'est Charles Corteau, vous êtes dans le Café des Sports. Café des Sports. Quand c'est nouveau, quand c'est nouveau, nouveau, c'est déjà sur RJFM.
Matt Simons, Better Tomorrow.
Can't you turn around and tune out all the voices? We've all been there. When it feels like the walls are caving in, and it feels like there's no escaping it. When it feels like the walls are caving in, you can fight it or you can roll with it. You'll feel better tomorrow.
Le morning qui te réveille, qui te gratte le dos sous la douche,
qui te prépare les tartines, qui t'aide à te brosser les dents.
Oui, parce que c'est important le matin.
Qui t'accompagne à l'école et au travail,
mais aussi
qui t'accompagne faire
tes
courses.
Good morning, Montlu, tous les jours, de 6h à
10h. Tous les jours, 6h-10h, good morning, Montlu.
Résultats, analyses, commentaires, tout le sport local et régional, tous les dimanches dans le Café des Sports. Café des Sports, la seule émission qui sent la sueur.
Allez, 17h37, on enchaîne tout de suite avec le second flash au sport.
Café des Sports, l'essentiel des résultats sportifs du week-end.
Rapidement, on reprend avec du football et de la National 3. Le Montluçon Foot faisait sa grande rentrée à domicile puisque c'était la deuxième journée de National 3. Après un match nul la semaine dernière du côté de Moulins, ils se sont imposés 2-0 contre l'équipe 2 du Clermont Foot. On reviendra sur ce résultat avec Mickaël Bessac plus tard dans l'émission. Coupe de France, on va vous donner les résultats qui n'étaient pas finaux tout à l'heure et les résultats définitifs. Alors, avec la qualification du Montluçon FC, hein, qui avait fait un parcours monstrueux l'année dernière, on s'en rappelle, ils se sont qualifiés 5-1 contre Haute-Rive, un club de Détroit comme eux. Ensuite, derrière, on avait également Vaux-et-Civray qui s'est incliné à domicile contre Saint-Yor, 0-1. Malicorne s'est incliné contre Dompierre, 2-0. Cerilly s'est incliné contre Marcillat-Pionça, 4-0. Montluçon bien ainsi a subi une lourde défaite contre Béziers-Doyer, un club de Régional 3 tout de même. Une défaite 7-1. Ensuite, Trongers s'est incliné à domicile contre Cône, 3-0. Quinzaine s'est imposé facilement à domicile contre Garnas-Saint-Martin, 4-0. Désertines, le club de D2, hein, s'est imposé 3-0 du côté de Saligny. Et enfin, la Montagne Bourbonnais s'est incliné 2-0 contre Lignerolles-Lavaux, le club de R3, donc Lignerolles-Lavaux, qui réussit sa première, son premier tour de Coupe de France. Tour de France rapidement avec l'étape 9 entre Pau et la Reims. Les trois premiers, c'est Tadej Pogacar qui devance Primoz Roglic et Marc Hirschi qui était parti depuis le début. Romain Bardet, Guillaume Martin se classe au classement général 3e à 28 secondes pour Guillaume Martin et Romain Bardet 4e à 30 secondes.
Du côté du paratriathlon, pour vous dire que Yannick Bourseau est devenu champion de France paratriathlète à Quiberon, en Bretagne, dans la catégorie PTS5. C'est son 6e titre de champion de France et le 2nd dans la catégorie. En moto super sport, chute aujourd'hui de Jules Cluzel dans la course numéro 2 de la 5e étape à Aragon en Espagne. Vendredi soir, il avait terminé 3e. Jules Cluzel qui ne sera sans doute pas champion du monde de super sport, car en plus il s'est blessé, hein, fracture du tibia péroné en chutant. Voilà, on pense à lui en espérant que ça aille pour le mieux. Un petit mot en basket pour vous dire que donc la semaine prochaine, c'est une journée porte ouverte au stade Montluçonnet, au gymnase des Guinbert, à l'allée Jean-Jacques Soulier, de 10h à 17h. N'hésitez pas à y aller. Pour les tout nouveaux filles et garçons nés entre 2004 et 2015, allez découvrir du basket. Un petit mot de rugby pour vous dire qu'en PH, en match amical, l'équipe de Commentry s'est inclinée à La Châtre, club de Fédéral 3, sur le score de 45 à 35. Voilà pour ce deuxième flash sport. On va enchaîner tout de suite avec la chronique d'Ethan.
Café des sports, le coup de cœur d'Ethan.
un coup de cœur sur le Tour de France avec un début de Tour de France qui répond à nos attentes, qui répond surtout à mes attentes. Oui, un Tour de France totalement différent de ceux que je connaissais. Alors oui, mon âge ne me permet pas de dire que je connais bien le Tour de France, hein, puisque je le suis de façon assidue depuis 2016, l'année où Romain Bardet faisait encore partie des meilleurs grimpeurs et où Christopher Froome ne s'était pas encore fait contrôler sur son Tour de Salbutamol. Mais je peux affirmer que ce début de Tour de France me fascine. D'abord parce que nos Français marchent fort, hein, déjà 2 victoires d'étape en seulement une semaine de course. Et on a encore 2 Français qui sont dans la course pour le classement général, même si un podium pour l'un des deux me semble compliqué. Bien sûr, la désillusion de Thibaut Pinot et les 20 secondes de pénalité infligées à Julien Alaphilippe pour une règle bidon, ça c'est la dédicace pour Damien, qui lui ont condamné sa belle tunique jaune me font de la peine, ou plutôt nous font de la peine, mais ce tour me fait rêver par son extravagance. On pense notamment aux deux étapes sans échappée, hein, c'était quelque chose qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et moi je pense surtout à celle où la Bora a initié une bordure inattendue, hein, tout ça pour que Trentin coiffe Sagan sur la ligne du sprint intermédiaire et que le champion slovaque déraille dans les 200 derniers mètres du sprint. Bon, au moins ils auront récupéré le maillot vert. Ou encore aujourd'hui, hein, avec un contrôle solide de la Jumbo-Visma qui ne voulait pas laisser partir et qui, à force d'imposer un rythme élevé, a réduit le peloton à moins de 30 unités. Et ça, alors qu'il restait encore plus de 80 km à parcourir, c'est du jamais vu pour moi en tout cas. Pour conclure, je dirais que nous assistons à un Tour de France qui est tactique et moins technique par rapport à avant. La preuve, surtout hier, avec ce refus de Roglic d'endosser la tunique du maillot jaune. Hein, on se rappelle, il a préféré se relever et laisser revenir le maillot jaune. Ou encore, hein, le souhait de Julien Alaphilippe de se laisser décramponner pour pouvoir ensuite jouer les victoires d'étape sans être contrôlé par le peloton.
Café des sports, coup de cœur, coup de gueule avec Ethan.
Voilà, c'était donc la chronique d'Ethan que vous retrouverez désormais donc tous les dimanches. Pub, et on se retrouve tout de suite pour parler football. À tout de suite.
Bonjour, c'est Lionel Petit, je vous donne rendez-vous sur RJFM.
Le morning qui te réveille, qui te gratte le dos sous la douche,
qui te prépare les tartines, qui t'aide à te brosser les dents.
Oui, parce que c'est important le matin.
Qui t'accompagne à l'école et au travail,
mais aussi
qui t'accompagne faire
Good
tes courses.
Good morning, Montlu, tous les jours, de 6h à 10h.
Tous les jours, 6h-10h, Good morning, Montlu.
Vous êtes témoin d'un événement, manifestation, route, météo. Envoyez vos photos ou vidéos sur la page Facebook RJFM. Votre quotidien et notre quotidien. Ne soyez pas seulement témoin de l'information. Partagez, likez la page Facebook RJFM. Café des sports. Café des sports. L'essentiel des résultats sportifs locaux et régionaux. Tout le sport.
Allez, de retour dans le Café des Sports, on va parler football.
Café des Sports, c'était hier et on en parle maintenant dans le Café des Sports. Café des
Sports. Avec Mickaël Bessac, entraîneur du Montluçon Foot. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Pour revenir sur cette victoire hier au Stade d'Alope contre la réserve du Clermont Foot. Donc une victoire 2-0. Ton sentiment sur cette victoire hier, Mickaël?
Mon sentiment, c'est déjà la satisfaction du résultat, c'est le premier point, puisque c'est vrai que je le suis toujours, parce qu'en plus, avec cette victoire, je regrettais déjà les deux points perdus en fin de match à Moulins, parce que pour moi, on doit prendre 3 points dimanche dernier à Moulins. Donc, avec ces points perdus, la victoire hier, elle était très importante. Surtout avant deux déplacements qui nous amèneront à Chambéry et à Saint-Étienne la semaine prochaine. Donc j'étais un petit peu déçu, mais c'est vrai que là, le sentiment, c'est la satisfaction d'avoir pris les points. Et puis par moments, aussi le sentiment d'avoir retrouvé des séquences similaires à l'équipe de l'année dernière. Donc c'est ce que je peinais à retrouver dans la préparation et lors du premier match à Moulins. Et j'ai eu le sentiment de retrouver un petit peu mon équipe comme je l'avais l'année dernière.
Bonjour Mickaël, la question qu'on a tous envie de vous poser, c'est est-ce que cette longue coupure s'est ressentie suite à l'intensité de jeu lors de ces deux premières journées?
Alors je ne sais pas si ça s'est ressenti ou si c'est que... Déjà, on est sur la même longueur d'onde que tout le monde, puisque tout le monde a eu la coupure, donc ça ne peut pas être une excuse. Mais je sais pas. J'ai eu, en fait, pendant la préparation, j'ai eu le sentiment que des garçons, c'est peut-être faux, hein, mais j'ai eu le sentiment que les garçons étaient un petit peu restés sur ce qui s'était passé l'année dernière. Alors, est-ce que c'est le fait que la saison dernière ne s'est pas terminée? Parce que finalement, dans le discours des joueurs, notamment quand il y a eu l'annonce de l'arrêt des championnats, ben, les garçons, je sentais beaucoup de frustration, beaucoup de déception de ne pas terminer la saison. Et concrètement, elle ne s'est pas terminée, elle n'est pas allée au bout. Donc du coup, forcément, ils sont peut-être restés sur un petit goût d'inachevé avec un petit peu plus de mal pour repartir. Mais bon, là, j'ai retrouvé des séquences similaires à la saison passée. Et j'espère, j'attendais une victoire, une bonne victoire, parce que c'est le goût de la saison dernière. Et j'espère que ça va remettre tout le monde dans le, on va dire, dans la dynamique que l'on connaissait.
Oui, surtout comme tu disais que cette quatrième place, ça laisse un petit coup d'inachevé. Et on sentait que ce groupe, qui était vraiment sur une dynamique très très bonne, avait le moyen de, pourquoi pas, d'aller chercher peut-être encore quelque chose.
Ouais, je pense que, très sincèrement, je pense que on était sur un état d'esprit hyper positif au moment où ça s'est arrêté, et dans le discours des joueurs, c'était révélateur. Enfin, ils ne se voyaient pas, ils ne doutaient pas, ils avaient beaucoup de confiance, ils ne se voyaient pas s'arrêter là, quoi, et pour aller continuer à être positif, et bon, qui sait, nous amener peut-être plus haut. Mais c'est ce que je leur ai dit pendant la préparation, de la saison dernière, gardez tout, mais effacez le résultat, parce que les compteurs sont remis à zéro. Et si on part dans l'esprit en se disant, ben voilà, on a 13 points d'avance ou 16 points d'avance sur le premier qui va descendre, ben c'est le meilleur moyen de se planter, parce que là, aujourd'hui, les compteurs sont à zéro, toutes les équipes sont sur la même ligne, et il faut prouver. Il faut prouver chaque week-end dans un championnat qui, à mon avis, est beaucoup plus relevé que l'année dernière. Ou en tout cas, je pense que, à mon avis, il y a un fossé encore plus grand entre l'Auvergne et le Rhône-Alpes.
Michael, vous évoquiez la saison dernière, on se rappelle, vous vous plaignez régulièrement des points perdus bêtement en fin de match. Est-ce que l'objectif cette saison, c'est pas finalement de perdre moins de points bêtes, comme vous les appelez?
Bah, déjà, par rapport à ce que je viens de vous dire, l'objectif, c'est de maintenir le club. Voilà, ça c'est parce que je pense que, alors c'est peut-être dur de dire ça, mais il faut bien se rendre compte quand même que ce qui s'est passé la saison dernière, c'est pas la norme. Et quand je vous dis que pour moi le fossé est peut-être encore plus grand entre le Rhône-Alpes et l'Auvergne, je le pense réellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur la même planète. Et c'est réel. Et le Montluçon quatrième de l'année dernière, on n'est pas dans la norme. Donc avant de dire l'objectif, c'est de prendre moins de buts, dans votre question, j'ai le sentiment que le maintien est acquis. Voilà, que le maintien est acquis et que maintenant, c'est normal, Montluçon, bonne équipe de National 3 qui va avoir un bon classement. Je crois qu'il faut s'enlever ça de la tête parce que y a rien d'acquis, et le premier objectif, c'est de se maintenir. C'est vraiment de se maintenir. Et ensuite, si on démontre effectivement dans quelques temps, aux deux tiers du championnat, si on démontre que on a été capable de se maintenir facilement, il sera peut-être temps d'avoir effectivement d'autres objectifs. Mais dans un premier temps, c'est de mobiliser tout le monde pour faire bien comprendre aux joueurs que on est sur un nouveau départ et que c'est encore plus dur, à mon avis, et qu'il y a tout à faire. Il y a tout à faire.
Une dernière question, Mickaël. On va changer de sujet radicalement. La Coupe de France va démarrer d'ici, je sais pas combien de temps exactement. L'année dernière, on se rappelle de votre sortie prématurée. Est-ce que cette année, il y a l'envie d'aller un peu plus loin et pourquoi pas faire un beau parcours, ou vous y pensez pas encore pour l'instant?
Non, j'y pense pas. Moi, mon principal objectif, c'est très clair. C'est le maintien. C'est le championnat. Voilà, c'est très clair. Ensuite, c'est quand même une compétition qui, pour moi, appartient aux joueurs. Voilà. C'est une compétition qui appartient aux joueurs. On est dans l'anonymat du foot français national, on va dire, en National 3. Et pour les joueurs, pourquoi pour moi ça appartient aux joueurs, c'est que pour les joueurs, La Coupe de France, c'est parfois l'occasion d'avoir un petit peu la lumière sur eux. C'est aussi l'occasion, éventuellement, de rencontrer une équipe du dessus, une équipe professionnelle. Bon, c'est toujours une soirée sympa, c'est toujours un moment sympa à vivre dans la vie d'un joueur amateur. Donc, moi, je n'ai pas d'objectif particulier dans cette compétition. Par contre, ça peut être un objectif pour les joueurs et un objectif pour le groupe, parce que j'utilise aussi cette compétition pour faire participer beaucoup plus de joueurs que ce que je peux le faire en championnat. Parce que nous, quand on joue la Coupe de France, c'est-à-dire entre septembre, octobre en général, si ça va un petit peu plus loin de novembre, pendant 2-3 mois, en général, on joue un week-end sur deux, et ça me permet aussi de concerner, de considérer beaucoup plus de joueurs que je ne peux le faire qu'en une seule compétition de championnat, quoi.
Merci Michael, on suivra ça avec attention, hein, en espérant que le MF fasse un honorable parcours en coupe. Prochain match, ce sera donc dimanche prochain du côté de Saint-Étienne. Merci Michael.
Merci, bonne soirée.
Merci, bonne soirée. Voilà, c'était donc Michael Bessac, l'entraîneur du Montluçon Football. On se retrouve dans un petit moment. On se retrouve tout de suite pour parler Coupe de France. À tout de suite.
Bienvenue dans votre espace de sport. En salle, au stade, près d'un bassin, sur un circuit, café des sports, sur RJFM pour mieux vivre sa passion du sport local et régional. Café des sports.
Démarrage difficile dans la région pour vos pièces auto. Choisissez GP Auto. Avec GP Auto, non seulement vous trouverez des pièces neuves pour votre véhicule dans toutes les marques, mais en plus, vous bénéficiez des meilleurs prix. Alors, dites-le autour de vous. Fini les pièces auto trop chères. Foncez chez GP Auto à Montluçon. Un renseignement ? Appelez le 0470 29 41 02. 0470 29 41 02.
Bonne rentrée avec GP Auto. Actuellement, profitez de moins 55% sur les démarreurs et alternateurs de la marque EAI. GP Auto, 44 rue de Pasquis à Montluçon.
Le morning qui te réveille, qui te gratte le dos sous la douche,
qui te prépare les tartines, qui t'aide à te brosser les dents.
Oui, parce que c'est important le matin.
Qui t'accompagne à l'école et au travail,
mais aussi qui t'accompagne faire
Good
tes courses.
Good morning Montlu, tous les jours, de 6h à 10h.
Tous les jours, 6h-10h, Good morning Montlu.
Sport local et régional. En direct sur RJFM de 17h à 18h tous les dimanches. Et si vous avez loupé quelque chose, la rediff de 18h à 19h.
Allez, de ce retour dans le Café des Sports, on est avec Kevin Bergeau, l'entraîneur de l'US Biachette. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Pour parler de ce premier tour donc de Coupe de France Désertine, donc se déplacer du côté de Saligny cet après-midi, et c'est une victoire 3-0. Félicitations Kevin.
Merci.
Comment s'est passé ce match tout d'abord?
Bon, ça a été compliqué sur un terrain vraiment pas simple pour tout le monde. 0-0 à la mi-temps et on marque tout de suite un but à la reprise, donc ça fait du bien et apprendre à suggérer les temps faibles et finir à 3-0. Voilà.
Ça se trouve où, ça, exactement, Saligny?
C'est après Dompierre.
D'accord. Donc, donc il y avait quand même entre 80-90 bornes à faire aujourd'hui.
Oh, un peu plus, même un peu plus d'une centaine de kilomètres.
D'accord. Kevin, comment que ça se passe pour cette saison au sein de l'USB Désertine?
Eh ben, ça se passe pas mal. On a repris l'entraînement de bonne heure le 27 juillet, donc ça fait un petit moment qu'on court. Pas mal de matchs de préparation ont été faits, avec des défaites, des victoires, mais ça a permis de travailler. Puis premier tour de Coupe de France, victoire 3-0, voilà.
Nickel, c'est parfait. Ethan.
Oui, petite question. Alors on sait généralement pour les clubs amateurs, c'est quelque chose en plus la Coupe de France. C'est une compétition quand même très importante pour vous ou vous privilégiez totalement le championnat?
On privilégie le championnat quand même, mais c'est important de jouer, surtout cette année, parce que le championnat commence que fin septembre. Donc ça permet de se mettre en route et d'avoir des matchs dans les jambes quand même tout le mois de septembre.
Oui Kevin, donc écoutez, félicitations. On va suivre avec intérêt votre parcours dans cette coupe. Et puis on rappelle que l'USB Désertine, c'est un championnat de départemental 2 hein, cette saison.
C'est exactement ça. On attaque le championnat 26 septembre à la maison contre Montluçon Foot.
Et ben voilà, ce sera un derby d'entrée. Donc n'hésitez pas à aller voir ce beau derby. Merci Kevin.
Merci à vous.
Merci pour tout. Bon retour. Voilà, ça c'était donc du côté donc du quart donc de Désertines, et on va passer tout de suite du quart de Désertines à celui du médiéval. Mais bon, ça c'était plutôt hier soir avec Mathieu Marché, défenseur du médiéval. Bonjour Mathieu. Allô Mathieu. Ah, on a un petit problème pour essayer d'avoir Mathieu Marché, un des défenseurs donc du médiéval. On rappelle donc le résultat du médiéval, Ethan.
Le score 3-3 à la fin du temps réglementaire, et comme on le sait, les prolongations ne sont plus d'actualité en Coupe de France. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on regrette. Et le Molusson médiéval qui s'est imposé au tir au but 6-5. Hein. Molusson médiéval, un club de départemental 1 qui jouait du côté de Uriel, un club de départemental 3.
C'est ça, du côté d'Uriel. J'ai écouté dire que c'était assez chaud, un bon match de football amateur. C'est ce que j'ai pu écouter.
Quand donc, on voit
le
score,
médiéval,
oui.
On rappelle qu'il évolue en championnat départemental 1, hein, tout de suite, avec Mathieu Marché. Bonjour Mathieu.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Bonjour et félicitations pour cette qualification du côté d'Uriel hier soir.
Ouais, qualification difficile.
Ouais, comment est-ce que ça s'est passé? On rappelle le score, hein, 3-3, victoire au tir au but. Hein. On a perdu Mathieu, on va essayer de le revoir.
On va le rappeler.
Ouais, on va le rappeler. C'est compliqué aujourd'hui, hein. Ça se voit que c'est la reprise, on a un petit peu de difficulté avec le matos.
Ouais, c'est comme
donc
ça, ouais.
Voilà, donc on rappelle donc le médiéval qui évolue cette saison en départemental 1.
Un match très serré, un match qui a l'air serré en fonction du score, un beau match de Coupe de France, les matchs qu'on aime voir en Coupe de France, hein, au vu du résultat, un match qui est tendu, hein, parce que 6-5 au tir au but ça va très loin. Quand généralement les matchs qui vont loin au tir au but, c'est les plus tendus, je trouve.
Ouais, hein. Exactement. Et puis bah 6-5, ça veut dire qu'il y a eu 5-5. Tous les tireurs ont sans doute réussi.
Peut-être
le sixième.
Ouais, on demandera des précisions sur ça. Comment ça s'est passé?
On va essayer d'avoir tout de suite Mathieu Marché. Donc on rappelle défenseur du médiéval. Si on n'arrive pas à avoir Mathieu, c'est pas grave. On essaiera de l'avoir pour une prochaine émission où on parlera peut-être un petit peu plus quand même. Et de toute façon, on pourra suivre le parcours du médiéval, hein, qui va jouer le deuxième tour de la Coupe de France. Alors par contre, je sais pas si c'est la semaine prochaine, le deuxième tour. C'est peut-être dans 15 jours.
C'est dans 15 jours, oui.
C'est peut-être dans 15 jours. Mais généralement, les premiers tours se suivent. Hein. Généralement, il y a au moins 2 ou 3 tours qui suivent pour les résultats du district. Ah. Allez, on a récupéré Mathieu. Mathieu, tu nous écoutes?
Eh ben, c'est autant difficile que la communication.
Allez, donc non. On disait match compliqué hier soir du côté d'Uriel. Hein.
Tout à fait. On va dire qu'il y a un bon début de match de notre part, où on ouvre, j'irais, le score directement. Donc on peut se rendre un match, on va dire, un petit peu plus facile. Sauf qu'après, bon, on s'est mis au même niveau que, je dirais, que nos adversaires. Et on a vécu un match très, très, très haché. On avait des ballons sous-gonflés, on a eu 13 minutes d'arrêt de jeu, et des fautes en permanence. Donc c'était une rencontre assez compliquée. Premier match officiel aussi. J'irais, nouveau entraîneur, nouvelle équipe aussi. Donc match compliqué. S'il y a quelque chose à retenir, je dirais, d'hier, c'est la conviction qu'on a donnée à revenir au score, et puis bien sûr la qualification.
Bonjour, alors moi j'ai 2 petites questions en une. D'abord, oui. Le second tour, on se demandait si c'était dès la semaine prochaine ou si au contraire il y avait 2 semaines de repos. Et surtout, quelles sont vos attentes pour ce deuxième tour? Est-ce que c'est juste se faire plaisir, ou alors il y a des attentes derrière ce match tout de même?
Eh ben, je dirais qu'il y a toujours 2 attentes au médiéval. De toute façon, la première, c'est exactement de se faire plaisir à chaque match, et puis de jouer la victoire à chaque match que l'on joue, que ce soit pour une Coupe de France, que ce soit pour un championnat ou pour un amical. On a toujours cette conviction-là, ce qui fait nos valeurs aujourd'hui.
Mathieu, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va te rappeler, on te rappellera pour une prochaine fois, par exemple pour le deuxième tour. On essaiera de parler avec un petit peu plus de temps, parce que là, ça va être compliqué. On va être obligé de rendre l'antenne. On a eu beaucoup de soucis aujourd'hui, donc c'était très compliqué. Donc voilà, on fait comme ça. D'accord, Mathieu?
Pas de soucis, merci à vous.
On rappelle Mathieu Marché, défenseur du médiéval Montluçon, le médiéval qui s'est imposé hier au tir au but du côté d'Uriel. Merci, à bientôt. Voilà donc, et ben pour cette c'est terminé donc pour cette première donc du Café des Sports saison 2020-2021. À suivre à 18h la rediff du Café des Sports. N'oubliez pas de 19h jusqu'à 21h retrouver Chloé qui fait sa première, il me semble, et de 6h à 10h retrouver demain matin le Good Morning Montlu avec Laurent et bien entendu Damien Tardieu. Les amis, merci à vous, merci Ethan, merci Alexis.
Merci et bonne fin de week-end.
Bonne fin de week-end et
bonne semaine à tout le monde et bon courage.
Bon courage et rendez-vous la semaine prochaine.